Seigneur, c'est toi qui fondes ton Église. Tu dis que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Tu dis que tu bâtis ton Église. Ce n'est pas une affaire d'homme, c'est une affaire de toi, Seigneur, le patron qui est sur le chantier. Seigneur, je me confie à toi, je m'abandonne en tes mains pour être un simple canal. Je prie, Seigneur, que je sois simplement fidèle à ce que j'ai compris ta parole et qui est nécessaire, utile, constructif à apporter pour l'avancement de ton royaume dans notre Église. Merci de bénir chacun de nous et de donner à chacun sa part de nourriture aujourd'hui. Seigneur, je t'en prie, au nom de Jésus. Amen. Alors, vous savez que je voudrais poursuivre ma petite série sur l'Église. Ok ? Je parle donc de l'Église. La question de départ, c'était: quelle Église voulons-nous construire pour le Seigneur ? La fois passée, j'avais abordé l'Église selon Matthieu, chapitre 16, du verset 13 au verset 18, et puis ensuite 1 Corinthiens 12, du verset 12 au verset 14. Et ça, c'était la première fois pour donner une espèce de définition biblique de l'Église. J'avais souligné que, en ce qui concerne 1 Corinthiens 12, c'est une des images de l'Église, à savoir le corps. Mais il y a d'autres analogies aussi qui sont liées avec l'Église. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à les chercher et il en a trouvé 200 dans la Bible. Bon, j'ai jamais fait ce travail-là, mais en tout cas, quelqu'un a dit qu'il y avait plus de 200 analogies de la Bible dans le Nouveau Testament. Bon, mais moi, je sais qu'il y en a quelques-unes qui sont quand même importantes. L'idée du corps est très, très importante parce que ça nous aide, ça nous a permis de pouvoir, par la suite, dans la deuxième prédication de la fois passée, plonger sur l'unité, la nécessité de l'unité. L'unité comme étant l'élément vital. En fait, l'unité est un peu comme le carburant, comme la respiration pour l'humain. Sans l'unité, le corps du Christ meurt. Elle se meurt complètement. Le corps du Christ n'est pas capable de pouvoir réaliser sa mission. Et donc, nous avons beaucoup parlé de l'unité la fois passée, en montrant que l'unité est nécessaire, est indispensable, parce que grâce à l'unité, le corps grandit, s'accroît, se développe. Le corps reçoit de la tête, c'est-à-dire de Jésus-Christ, tout ce qu'il lui faut pour pouvoir s'édifier et aller de l'avant. Nous avons aussi dit que dans 1 Corinthiens 12, il y a cette idée de l'unité, mais aussi de la diversité. Il y a l'unité dans la diversité. Un seul corps, plusieurs membres. Et donc la diversité. Mais cette diversité est particulière. Les membres qui font partie du corps, il ne s'agit pas d'une organisation, c'est-à-dire des gens qui sont plic-ploc, mis comme ça dans un organigramme. On a dit que c'est des membres qui sont reliés les uns les autres. Il y a une espèce d'interdépendance. De sorte que Paul va exploiter cette idée où il dit carrément que si un membre souffre, eh bien tout le membre souffre avec, parce qu'il y a une connexion. Les membres les plus faibles de notre corps, nous les couvrons de plus d'honneur. Quand il y a un danger, je ne sais pas moi, quelqu'un veut me frapper, je protège mon visage, parce que j'ai peur qu'on touche à mes yeux, etc., parce que c'est la partie de mon corps qui est fragile. Ce sont mes mains qui vont venir au secours pour protéger. Le corps est conçu comme ça, les membres sont interdépendants. Ils sont là entre eux et ils sont au service les uns des autres. Ce matin, je voudrais entrer dans cette dimension du travail dans l'Église, du service dans l'Église. Mais je me suis rendu compte que je ne sais pas aborder cette question-là sans au moins faire trois préalables. Et donc, aujourd'hui, je vais plutôt aborder les trois préalables pour pouvoir parler de, du travail dans l'Église. Ok ? Voilà. Donc, je vais procéder par trois questions, trois étapes, trois choses qui me semblent importantes à savoir et à considérer pour pouvoir véritablement parler du travail, du service dans l'Église. Première chose, quelle est la vision, quelle est la vocation de l'Église ? Avant de pouvoir servir quelque part, on commence par s'informer de son lieu de travail. Vous êtes d'accord ? Hein ? Vous allez trouver un travail comme, je prends l'exemple pour ma femme, aide-soignante, quelque part, enfin à Rixensart par exemple, et on commence par se dire, oui d'accord, ce boulot-là consiste en quoi ? Mais on va, pour savoir en quoi le boulot consiste, on regardera quel est le projet de là où on va. Si c'est un home pour les personnes âgées, on sait très bien que ce boulot consistera à prendre soin de ces personnes âgées. Et donc, on a une idée de ce qu'on va devoir faire là-bas. On va devoir faire de la manutention, on va devoir faire un soutien par le dialogue, on va devoir faire peut-être du travail physique de nettoyage, etc. On peut se faire une idée parce qu'on sait c'est en quoi consiste ce travail. Je ne peux pas travailler dans l'Église si je ne sais pas à quoi, qu'est-ce qu'on fait dans l'Église, quelle est la vocation de l'Église, quelle est la mission de l'Église. Je me souviens, il y a quelques années, c'était au début des années, fin 1990, j'ai travaillé pendant quelques années dans une mutuelle de l'État, la CAMI à Bruxelles, donc Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie Invalidité. Donc j'étais un cadre administratif là-bas. Mais quand je suis arrivé dans ce travail, je ne connaissais rien du tout de tout ce qui est facturation, de tout ce qui est les machins de vignettes là pour les malades. Il y a des codes, des chiffres, etc. J'ai appris tout cela sur le tas. C'est parce que c'est un cadre dans lequel je me suis trouvé, et c'est un type de travail que je devais faire là-bas, parce que c'est la vocation de ce centre, de cet endroit-là, de cette caisse-là. De même aussi, savoir le projet de Dieu pour l'Église nous aide à travailler dans l'Église de la bonne manière. Alors, à quoi est-ce que Dieu a-t-il destiné l'Église ? Pourquoi Dieu a-t-il permis que l'Église existe et soit fonctionnelle pour lui ? Alors, il y a trois choses que je trouve tout à fait évidentes qui montre à quoi est destinée l'Église. Pourquoi Dieu met en œuvre l'Église? Qu'est-ce que Dieu recherche à travers la fonction de l'Église? Première chose, Dieu veut que l'Église soit un lieu d'adoration et de culte, un lieu où on lui rend gloire. C'est une des raisons pour lesquelles il fait l'Église, qui devienne le lieu où les gens se rassemblent pour le célébrer, pour le louer. Nous allons voir ça à travers le texte de 1 Pierre, chapitre 2, le verset 4 et 5. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Une maison spirituelle. Une maison spirituelle, c'est-à-dire une maison avec, qui a une vocation de faire un travail spirituel. L'Église, c'est principalement ça d'abord. C'est d'abord du travail spirituel. En quoi consiste ce travail-là ? On nous parle ici d'un saint sacerdoce. Un sacerdoce, c'est-à-dire le travail des sacrificateurs. Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, c'est ceux qui se tiennent au temple et qui sont là à la disposition des gens pour pouvoir les accompagner, les prier avec eux, offrir les sacrifices avec eux. Mais les sacrificateurs sont là aussi pour prendre soin du temple. Ils sont là aussi pour développer la connaissance de la Torah, la parole de Dieu, et pour pouvoir l'enseigner. C'est là notre rôle premier. L'Église, c'est cela d'abord. Et vous avez remarqué, on reviendra sur ça, cette idée que ce n'est pas des bâtiments, ce n'est pas un bâtiment avec des briques et des blocs, c'est véritablement une maison faite de pierres vivantes. Et ces pierres vivantes, c'est nous, c'est chacun de nous, c'est chacun individuellement. Et j'aime bien cette idée de Pierre, parce qu'il n'est pas là malheureusement, j'aurais pu lui dire merci. Jean-Paul Villa. Parce que c'est Jean-Paul qui m'a expliqué la différence entre construire une maison avec des briques et construire une maison avec des pierres. Construire une maison avec des briques, c'est toutes les briques ont la même taille, ont la même structure. On les met les uns après les autres et c'est bon. Mais construire une maison avec des pierres sous-entend un travail laborieux. Il faut pouvoir choisir les pierres qui vont bien les unes et les autres, qui s'enclenchent bien, qui se mettent bien. Il y a des petites pierres, des grosses pierres, des pierres moyennes, etc. Nous sommes une maison spirituelle. Nous sommes des pierres vivantes qui formons cette maison. Il y a des petites pierres, il y a des grosses pierres, il y a des pierres moyennes, il y a toutes sortes de pierres. Mais tous, sans exception, nous formons la maison de Dieu. Est-ce que on comprend ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire que chacun de nous est important. Est important, a un rôle à jouer, a une place. Souvent, nous voulons qu'on nous donne une place. Nous cherchons à ce qu'on nous donne une place. Mais nous avons une place. Nous avons notre place. Nous sommes une pierre vivante. Et nous sommes une pierre vivante. Pourquoi? Parce que nous sommes approchés de Jésus. Le fait d'être sauvé en Jésus-Christ, le fait d'être régénéré par le Saint-Esprit, le fait de devenir chrétien, nous sommes membres de l'Église, nous sommes membres du corps du Christ au sens large, donc le corps universel, et en même temps, nous devenons des pierres vivantes. Et donc, notre devoir est de s'édifier ensemble, c'est-à-dire de construire ensemble, de travailler ensemble. Le but étant d'offrir à Dieu des victimes, des sacrifices spirituels agréable. Notre façon de louer Dieu, notre façon de le servir dans l'Église, notre façon de prier, notre façon de nous servir les uns les autres, c'est des victimes spirituelles. Et nous devons viser l'excellence, ce qui plaît à Dieu, ce qui lui est vraiment agréable. Église, première vocation, lieu d'adoration, lieu de culte pour Dieu, lieu d'édification, où nous formons ensemble une maison pour offrir des sacrifices de louange, d'adoration à notre Dieu. C'est normal, c'est pour ça que nous pouvons nous rendre tous les dimanches ensemble, pour venir prier, louer Dieu. C'est une des vocations de l'Église. Deuxième vocation. Dieu veut que l'Église soit un lieu d'accueil et de repos, un lieu de guérison et d'épanouissement pour les frères et sœurs en Christ. Sur l'autoroute, vous voyez parfois c'est écrit « aire de repos ». J'aime bien ça, parce que quand j'ai sommeil, je peux aller là, m'arrêter et m'assoupir un peu. L'aire de repos, c'est un endroit qu'on a besoin parfois pour pouvoir un peu se retrouver avec soi-même. Dans un monde aussi agressif, face à des situations toujours très difficiles, parfois on a besoin d'avoir ce havre de paix. L'église devrait être un lieu d'accueil où je viens pour me restaurer, pour me reposer, pour m'épanouir, pour me retrouver avec moi-même et me retrouver avec Dieu. L'église devrait être ce lieu où je viens pour trouver la guérison par rapport à mes blessures. Mais comment? Comment? Je propose dans ce texte que vous connaissez, que j'ai souvent présenté, parce que c'est une de mes convictions que c'est vraiment là un des rôles clés de l'Église, encore aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 12, donc du verset, on va prendre depuis le verset 24 jusqu'au verset 27. Je coupe au milieu d'un développement que l'apôtre Paul fait. Hein. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. C'est ce que je disais tantôt. Pourquoi? Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns les autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Une des vocations de l'Église, c'est de constituer ce qu'on appelle une communauté curative. C'est-à-dire un lieu curatif, pas dans le sens d'un hôpital, hein, où on vient soigner les malades. Hein. On ne suppose pas que les chrétiens sont tous des malades, il faut les soigner. Non, l'idée qui est là, c'est une communauté curative dans le sens où c'est un lieu où les membres prennent soin les uns des autres. Ce n'est pas pour trouver l'excuse pour les responsables. C'est simplement pour dire que c'est ça notre rôle. Notre rôle est de pouvoir prendre soin les uns des autres. Si, dans une église, les membres regardent un autre souffrir, ne prient pas pour lui, ne l'abordent pas, ne vont pas essayer de trouver des solutions avec lui face à son problème, ne font pas tout l'effort qu'ils peuvent faire, du moins ceux qui sont autour de lui, pour soit communiquer aux autres, ou soit appeler un plus grand nombre, ou soit eux-mêmes faire des choses, alors ce n'est pas une église. L'église, c'est une communauté curative où tous nous prenons soin les uns des autres. René expliquait lors d'une réunion quelque chose qui m'avait scotché. Il avait dit que le corps humain, quand il y a une blessure, quelque part, je ne vais pas répéter tous les mots scientifiques que tu avais donnés, hein, mais je vais expliquer avec mes mots à moi. Hein. Donc, le corps humain, quand il est blessé, il met en place tout un mécanisme sophistiqué pour promouvoir à la guérison. C'est comme ça que le corps fonctionne. Je suis malade, tout de suite il y a tout un système de défense immunitaire qui se met en place, les globules blancs, tout se met en place pour la guérison. Plusieurs membres, plusieurs parties du corps viennent pour apporter l'aide afin que le corps guérisse. C'est pas le cerveau qui vient le faire, hein. C'est pas le cerveau qui dit « Oh, je donne l'ordre ». René me disait que, enfin, nous disait, parce qu'on n'était pas tout seul avec lui, disait que même le cerveau n'intervient même pas. C'est un mécanisme automatique, ça se fait spontanément. Dès que le corps est en danger, des alertes commencent, tout se met en place. Imaginez une église comme ça, où quand il y a une souffrance, quand il y a un souci, on se met en route. On se met en place. Ceux qui ont le temps, ceux qui ont la possibilité, se mettent tout de suite au travail. Pour la prière, pour le soutien, pour les paroles d'encouragement, même pour l'aide concrète. C'est à ça que sert l'Église. À être un havre de paix. À être un lieu d'accueil. Une Église peut évaluer ses performances si les gens qui viennent la visiter puissent dire « Waouh, quand même, je me suis senti accueilli. » Si les gens qui viennent, qui ont des soucis, peuvent se dire « Oui, dans l'église, il y a des frères, il y a des sœurs. » Dès que je dis « Ouh, souffrance ici », il y a des gens qui se mobilisent. Ça ne demande pas tout le monde. Hein. Ça ne demande pas nécessairement que toute l'église se mobilise. Quand le corps est blessé, ce sont les parties du corps qui sont dans les parages qui interviennent. On ne doit pas toujours savoir que ça doit être tout le monde, les pasteurs, les anciens, tout le monde doit se mettre en place. Non, mais déjà entre frères, on peut déjà travailler à ça. Ça nous demande de sortir parfois de nos égoïsmes. Ça nous demande parfois d'être attentifs à l'égard des autres. Mais voyez-vous, ce n'est pas un boulot pour une personne et pas pour une autre. C'est un boulot pour nous tous, chacun individuellement. Et je peux le faire. Une communauté curative, elle n'a pas besoin nécessairement qu'on agisse que quand il y a des problèmes. Vous savez, je guéris mon frère, je guéris ma sœur à travers mon attitude vis-à-vis de lui. Si je viens et que je vous salue très gentiment, et que je fais attention à vous, que je vous parle correctement, je vous fais beaucoup de bien. Pas nécessaire que je puisse commencer à développer des trucs extraordinaires. Mon attitude, ma bienveillance, mon élan affectueux, c'est quelque chose qui peut permettre à un groupe de se sentir forgé. Notre façon de parler, notre façon d'être avec les gens, notre disponibilité. Toutes ces choses construisent une communauté curative. Il y a des gens qui viennent ici qui ne vous diront jamais tout ce par quoi ils sont passés. Mais une parole de votre part, une simple parole d'encouragement, une parole d'amour peut suffire pour apporter du soleil dans sa journée, dans sa vie, l'aider à se dire « Ah, j'existe ». Je me souviendrai toujours, à Louvain-la-Neuve, on avait cette dame que vous connaissez, qui venait ici dans cette église ailleurs, qui s'appelait Maria Fakine. Maria Fakine venait aussi l'après-midi à Louvain-la-Neuve, donc il venait au culte ici à Ottigny, et il venait chez nous à Louvain-la-Neuve à l'époque où nous avions le culte l'après-midi. Et Maria était venue par hasard, parce qu'elle était embarquée dans les histoires de Bernadette et voilà, des Paloukou, et voilà, partie. Et donc, arrivée sur place, elle était un peu comme elle se demandait, je suis où là-bas, qu'est-ce que je fais ici, qui sont ces gens? Et elle raconte, c'est elle qui le dit, hein, elle raconte que ce qui l'a attaché à la communauté, c'est qu'il y avait une petite fille de 14 ans à l'époque, Kibouya, la fille du pasteur Wingo, que quelques-uns connaissent maintenant, c'est une dame de 40 ans, enfin de une quarantaine d'années maintenant. Elle avait à l'époque 14 ans. Elle est venue, elle s'est approchée d'elle avec une tasse de café. Elle lui a dit, vous voulez une tasse de café? J'en ai fait pour vous. Elle lui a donné la tasse de café. Elle dit, je peux vous apporter du sucre ou du lait, ce que vous voulez. Elle a dit, ah, je prends mon café tout noir comme les Italiens, enfin certains Italiens. Et le fait qu'il y ait eu là quelqu'un qui s'est approché d'elle, qui lui a parlé dans un endroit où elle ne connaît personne, ça lui a fait quelque chose. Et elle est restée avec, et Kibouya a parlé avec elle pendant une quinzaine de minutes. Et Kibouya, c'était une fille très très pratique. Elle avait le sens des affaires, hein, parce que tout de suite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a posé des questions pour cerner le personnage, voir un peu ses besoins, etc. Et tout de suite, elle a su à qui allait coller la personne à elle. Et donc, elle est venue prendre une personne en disant, tu sais, telle personne-là, elle vient de là, elle fait ça, elle fait ça, je pense que ce serait bien que tu parles avec. Et donc, la personne est allée parler avec elle, et voilà. Voyez-vous? Guérir les gens, prendre soin les uns des autres, ce n'est pas nécessairement seulement dans des grands problèmes, hein. C'est dans les petites choses de la vie de tous les jours, notre attention vis-à-vis des autres. Et si nous le comprenons, alors nous comprenons une des vocations précieuses de l'Église. Et nous allons faire des heureux dans l'Église. Nous allons donner un témoignage différent, un visage différent de notre Église. À Louvain-la-Neuve, excusez-moi de parler de ça tout le temps parce que c'est mon expérience ecclésiale. Les gens partaient et revenaient. Et quand ils revenaient, quand ils venaient en Belgique, ils revenaient nous voir et nous dire bonjour. Parce qu'il y avait là dans cette église des gens qui ne pouvaient pas laisser quelqu'un, un inconnu, rester dans son coin. Ce n'est pas possible. On allait vers lui, on s'intéressait à lui, on parlait avec lui. Tout le monde n'a pas cette qualité-là, n'est-ce pas? Tout le monde n'est pas toujours en mesure de pouvoir faire aller vers les autres, surtout les gens qu'on ne connaît pas. Mais il y en a quand même qui peuvent le faire. Et vous savez, pour quelqu'un, le plus important, ce n'est pas que tout le monde fasse quelque chose. Quelqu'un est reconnaissant dans notre église si une personne, si deux personnes capables de le faire le font. Communauté curative. Une communauté dans laquelle les gens prennent soin les uns des autres. Font attention aux autres. Ne vivent pas en simple réceptacle qui reçoit, mais qui donne, qui sont là pour les autres. Troisième dimension. Donc, première dimension, donc, j'ai dit. Première dimension, lieu de culte, lieu d'adoration. Deuxième dimension, lieu d'accueil, lieu de soins, lieu de, où l'on s'occupe les uns des autres, on prend soin les uns des autres. Troisième dimension, l'église, c'est un lieu aussi où nous sommes là pour être formés en vue du ministère. Et le ministère par excellence, c'est le témoignage dans le monde. Quand je suis arrivé dans l'église, j'avais expliqué que ma vision, c'était de pouvoir travailler en considérant l'église comme l'ambassade du royaume de Dieu, et donc comme un corps missionnaire, comme une œuvre à bâtir en vue de pouvoir atteindre les gens du monde, en vue de pouvoir toucher les non-croyants. Pourquoi ? Parce que c'est aussi une conviction chez moi que l'Église, elle est la vitrine de Dieu pour le monde. Le monde ne voit pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est un royaume invisible. On ne le voit pas. Mais on le voit à travers nous, les pierres vivantes. On le voit à travers nous qui avons formé une ambassade. L'ambassade, c'est le lieu visible d'un État, dans un autre État. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes à l'Église pour être formés. Pour être formés afin de pouvoir être équipés pour atteindre les gens, pour atteindre les non-croyants, pour pouvoir apporter le message du salut aux gens. Collectivement, en tant que communauté, mais aussi individuellement, en tant qu'enfant de Dieu. C'est là notre rôle. C'est là notre service. C'est là notre vocation. Et, quelque part, c'est un rôle important que l'Église a. Donc, trois fonctions. Première fonction, lieu d'adoration. Deuxième fonction, lieu d'accueil et de soins des uns des autres. Troisième fonction, lieu de formation, centre de formation pour atteindre le monde perdu, pour œuvrer à ce que le monde soit sauvé. Alors, ça c'est ma première question. Je vois qu'il est déjà 11h30. C'est terrible hein, quand on parle des choses que... Des choses qui vous... Enfin... Voilà. On ajoute. Je vais maintenant lire dans mon texte, parce que je suis sûr que si je lis dans mon texte, on va terminer vite. Deuxième question. Première question, c'est quelle est la vocation de l'Église? Pour comprendre où est-ce qu'on va travailler. On va travailler donc dans un lieu qui sert à la fois de lieu de culte, qui sert à la fois de lieu où on prend soin les uns des autres, mais aussi un lieu où je vais me former pour servir Dieu. Servir essentiellement à quoi? À gagner des âmes. Alors, une fois que je sais le cadre, le projet de lieu où je vais travailler pour Dieu, la question c'est, qui sont ceux qui pourront pouvoir remplir ce service? Maintenant, c'est la question du profil du travailleur, en quelque sorte. Évidemment, première chose qui saute aux yeux, il s'agit des chrétiens nés de nouveau. Vous êtes d'accord? C'est des gens qui ont reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur, qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui ont vraiment, qui sont devenus des chrétiens et qui se sont engagés dans une vie de disciples pour Christ. Il s'agit aussi, à la lumière de ce que nous avons vu, vous avez remarqué, tu peux remettre peut-être le texte, 1 Pierre, là, 2, 4 et 5, là. Vous avez remarqué une chose, hein? Approchez-vous de lui, pierre vivante, et vous-même. Il ne s'agit pas, il s'agit ici des croyants. Suivez-moi bien. Il s'agit des croyants, et vous-même, donc tous les croyants, et vous-même, comme des pierres vivantes. Donc, qu'est-ce qui édifie la maison spirituelle? Ce sont les croyants. C'est là la différence entre les catholiques et les protestants. C'est là le point de différence entre les catholiques et les protestants. C'est là que se trouvait un des gros problèmes que Luther a eu. Parce que ce que Luther veut dire ici, c'est quoi? C'est que le sacerdoce, c'est-à-dire le travail qui se passe dans la maison de Dieu pour servir Dieu, n'est pas un travail d'un groupe particulier. Ce n'est pas le travail seulement d'un clergé. Dans l'Église catholique, c'est les prêtres. Voilà. Mais ici, Luther a plaidé pour ce qu'il appelait le sacerdoce universel. C'est-à-dire le fait que tous les croyants, sans exception, sont impliqués dans le travail de l'Église. C'est quand même une fameuse différence, hein? Donc, quel est le profil qu'on peut faire de ceux qui travaillent dans l'Église? C'est des chrétiens nés de nouveau, et tous, ils sont impliqués dans ce travail. Personne ne peut dire, « Ah, moi, je ne connais pas bien la Bible, ça ne me concerne pas. » Oui, peut-être qu'il y a des secteurs où vous ne saurez rien faire. Mais il y a quelque chose à faire pour chacun de nous, pour nous tous, sans exception. Parce qu'il s'agit d'un sacerdoce universel. Luther a mis sa vie en danger pour affirmer cette vérité-là. Il est allé beaucoup plus loin, bien sûr, hein, parce qu'il est allé jusqu'à dire, puisque nous avons tous un sacerdoce universel, c'est-à-dire que dans l'Église, c'est nous tous qui servons, alors le ministère des prêtres ne sert à rien. Quand vous dites ça, ce n'est pas la joie que vous attirez en face de vous. Hein. Donc, à la lumière de ce texte, nous sommes tous au service de Dieu dans son Église. Tous. Et j'aimerais préciser que nous sommes tous en position de sacrificateurs, c'est-à-dire des personnes dont la fonction est dans l'Église de servir à des tas de tâches dans l'Église. Il y a une diversité de tâches au sein de l'Église et nous avons tous un rôle à jouer. Il n'y a donc pas des assistants et des assistés, des spectateurs et des acteurs. Tous, nous sommes impliqués dans ce travail. J'aime bien cette autre expression. On parle d'un sacrificateur. Un sacrificateur, c'est un serviteur. Et vous savez que le mot grec auquel j'aime bien faire allusion quand on parle de serviteur, c'est le mot doulos, c'est-à-dire esclave. Un serviteur, ce n'est pas quelqu'un qui a des exigences. C'est vrai que le monde a tellement bien progressé qu'aujourd'hui, les employés, ils ont des exigences. On pose des conditions pour travailler. Je veux une voiture de service, je veux un GSM de service, je veux un portable de service, etc. Je veux tel avantage salarial, etc., etc. Mais dans le travail de Dieu, nous sommes là pour lui offrir ce que nous avons et de lui offrir ça gratuitement, en reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous. Nous sommes tous des serviteurs. Mais il y a un terme que j'aime bien. dans une prédication qu'on a écoutée, on a désigné les serviteurs comme étant des responsables. C'est qui un responsable? Un responsable, c'est quelqu'un qui cherche à trouver des solutions. C'est ça un responsable. La différence entre un directeur et un responsable, c'est que quand on vous nomme directeur, ça veut dire que vous exigez du travail des autres. Vous attendez que les autres fassent le travail. Vous leur dites ce qu'il faut faire et eux ont des comptes à vous rendre. C'est ça un directeur. Mais un responsable, c'est quelqu'un qui va sur le terrain. Quand il y a un problème, il cherche à trouver la solution. Nous sommes serviteurs responsables de nos églises. Quand un problème se passe dans l'église, il ne s'agit pas pour nous de commencer à dire « Ah mais c'est le problème de tel, hein. Moi je ne m'en occupe pas, hein. Il n'a qu'à l'arranger. Hein. Ah oui, j'ai vu que tel, oh mais c'est son problème. » Non, être responsable, ça veut dire « Je vais trouver des solutions dans l'espace où je me trouve. » Je ne suis pas là pour laisser pourrir une situation, je suis là pour chercher une solution. Dans les conditions chrétiennes, bien sûr, c'est-à-dire dans les conditions de paix. Être responsable. Donc c'est à nous qu'incombe cette tâche-là, nous qui sommes des pierres vivantes. Et la maison donc visible est une maison, c'est la collaboration de nous tous. C'est une maison qui est localisée quelque part. C'est là que je vais emboîter sur l'église locale. Qu'est-ce qui peut remplir cette mission de l'église? Ce sont les gens qui fréquentent une église locale. Alors, l'église locale, vous savez c'est quoi? C'est la partie du corps du Christ qui est visible. Le corps du Christ est un corps universel, composé de tous les croyants, mais c'est à travers les différents endroits où on est qu'on sait voir le corps du Christ. Alors, troisième et dernière question. Alors, aujourd'hui, que dit 1 Corinthiens 12 concernant le travail dans l'Église? Tu vas mettre le texte de 1 Corinthiens 12. Non, 12, 4, 7. On va le lire rapidement. Je vais simplement surfer rapidement sur les réponses. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Le travail dans l'Église ne se fait pas comme le travail dans le monde. Pour que notre travail dans l'Église soit efficace, le Saint-Esprit nous accorde des dons, des charismes. Et ces dons, ce sont des aptitudes que nous recevons de la part du Seigneur pour le servir dans l'Église. Ils sont différents. Certains ont des dons très visibles, d'autres ont des dons qu'on ne voit pas du tout. Mais nous tous, nous avons reçu quelque chose. Et c'est le Saint-Esprit qui le distribue à qui il veut, comme il veut. Il y a plusieurs sortes de dons, parce qu'il y a plusieurs services dans l'Église. Et la source est toujours la même. C'est Dieu. Et vous avez vu, c'est Dieu qui opère. Les dons ne sont pas là pour que je puisse dire, j'ai tel don, je suis meilleur que les autres. Mais les dons, c'est simplement le moyen par lequel Dieu agit à travers nous. C'est ce canal par lequel Dieu fait les choses à travers nous, tout simplement. Nous devons donc garder beaucoup d'humilité par rapport aux dons que nous recevons. Beaucoup d'humilité par rapport aux aptitudes que nous avons. Dieu exerce donc son action pour nous rendre capables d'accomplir l'une ou l'autre forme de son œuvre. Donc, les dons spirituels pointent le doigt, non pas vers nous-mêmes, mais vers Dieu. Et pourquoi est-ce que Dieu donne les dons? Pourquoi a-t-il donné les dons ici? Vous voyez, verset 7, il a donné les dons pour l'utilité commune. Les dons spirituels servent à l'utilité, au bien commun de l'Église. Ils ne sont pas là pour que je me fasse valoir, en disant, moi j'ai tel don, donc je suis le meilleur que tout le monde, mais ils sont là pour que je puisse être au service des autres. que je puisse contribuer à ce que l'ensemble du corps fonctionne correctement. Mon don ne m'appartient pas comme un faire-valoir. Mon don est là au service de Dieu, dans son Église, au service des autres dans l'Église, au service de la communauté. Voilà à quoi sert mon don. Alors, je vais peut-être terminer là avec cette réflexion. Comment est-ce qu'on peut réussir à travailler ensemble dans l'Église? Comment atteindre avec succès ce défi? Mes amis, je vais vous dire une chose. C'est là la différence entre une entreprise et une Église. Le but du travail dans l'Église, ce n'est pas le résultat. Je répète, le but du travail dans l'Église, ce n'est pas le résultat. Dans une entreprise, il y a le résultat. S'il n'y a pas de résultat, le patron est viré, les ouvriers sont virés, c'est comme ça. Le but dans l'Église, ce n'est pas le résultat, mais c'est le fait de donner la gloire à Dieu dans ce que nous faisons ensemble. Parce que le résultat appartient à Dieu. C'est Dieu qui donne les résultats au travail que nous faisons. Ce n'est pas à nous les hommes qui devons déterminer nos résultats. Beaucoup de gens dans les églises tombent en conflit les uns des autres à cause de ça. Ils veulent que le travail qui est fait, il y ait du résultat. Alors, il n'y a pas de résultat. Oh, c'est mauvais tout ça. Non. Le résultat, c'est dans les entreprises humaines. Mais avec Dieu, c'est Dieu qui, lui, apporte le résultat. C'est lui qui fait le résultat. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Nous ne sommes que ceux qui viennent travailler. Tout ce qu'on nous demande, c'est de travailler, c'est tout. C'est pas de travailler, de regarder. Oui, c'est combien la rentabilité? Ah, bon, manifestation, syndicat. Demain, on grève parce qu'ils ont gagné 10%, alors allez, augmentation de salaire. Non. Notre travail à nous, c'est de servir Dieu et de dire, Seigneur, les résultats, c'est à toi. Bien entendu, on doit travailler. Non, comprenez-moi bien, hein, je ne veux pas dire qu'on ne doit pas travailler en disant, puisqu'il n'y a pas de résultats, moi je fais n'importe quoi. Non, mon travail doit être excellent. Il doit être très bon. Il doit être fidèle, régulier, sérieux. Mais, quant aux résultats, je ne dois pas pouvoir évaluer ça en disant « Ah, j'ai bien travaillé » ou bien « J'ai pas bien travaillé ». Non, ça dépend de Dieu. C'est le résultat vient de Dieu. Et c'est ça que le texte dit ici. Puisque c'est Dieu qui opère les choses à travers nous, c'est son plan à lui, c'est son projet à lui. Comment réussir ensemble à travailler? Comment servir ensemble dans l'Église? Travailler ensemble. Je vais juste répéter les points que j'ai dit ici avec mes trois questions. Il faut d'abord savoir quel est le rôle que Dieu a donné à l'Église. Quand je sais le rôle que Dieu a donné à l'Église, je viens dans l'Église, je vais rechercher à travailler dans ce sens-là. Je vais rechercher à travailler dans le sens de faire de l'Église un lieu de culte, un lieu d'adoration, un lieu où Dieu reçoit la gloire, etc. Je vais travailler dans ce sens-là. Je vais travailler dans le sens de faire en sorte que mon Église soit une terre d'accueil, une terre d'asile, un refuge, un lieu d'épanouissement, un lieu où nous prenons soin les uns les autres. Je commence, moi, à prendre soin des autres d'abord, avant d'attendre que les autres prennent soin de moi, bien sûr. Et si mon Église ne correspond pas à tout ça, et que moi j'ai compris ça, eh bien, je vais travailler à ça. Je ne vais pas dire aux gens, « Hé, regardez, moi j'ai compris, et moi je fais. » Non, je vais travailler à ça. Et si je trouve que j'ai des obstacles, je vais prier. « Seigneur, regarde, on a besoin de ça. » Troisième chose, je suis conscient. Non, d'abord, premièrement, c'est le rôle de l'Église. Il est important. Deuxième chose, je dois être conscient de ma position de serviteur responsable. Je suis là parce que le Seigneur m'a placé dans l'Église. Et s'il m'a placé dans cette Église, Je suis là pour le servir comme un responsable. C'est-à-dire quelqu'un qui est concerné par la solution à tous les problèmes. Pas quelqu'un qui vient apporter les problèmes, mais qui vient chercher à trouver des solutions aux problèmes. Évidemment, par le moyen de la paix. Hein. Troisième chose, pour qu'on réussisse le pari d'une église, il faut réaliser que j'ai un don. J'ai plus que simplement... Dieu ne me donne pas simplement ne m'appelle pas simplement à le servir, mais il m'équipe spirituellement pour le servir. C'est très important de le savoir. Dieu m'accompagne dans ce travail. Il est avec moi. Il collabore avec moi dans ce travail. Je ne suis pas seul. Le don spirituel ne doit pas devenir quelque chose pour lequel je dois me valoir.